France Inter où il est 13h30. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Sébastien.
Au menu de la marche de l'histoire, le plan Marshall.
Oui, alors il y a deux façons de considérer les choses. C'était il y a 70 ans ou bien c'était un an après la naissance du petit Donald Trump. C'était une époque en tout cas très lointaine où les États-Unis prétendaient organiser le monde plutôt que de s'en défendre.
Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
Le plan Marshall.
I don't speak American very well, and I'll try to explain you what French people thinks about Marshall Plan. Do you know what is Marshall Plan?
Le chansonnier Jean Rigaud. Le mot plan Marshall a de suite fait image. Il est vrai que la pénurie régnait encore en Europe. En France, le pain manquait et le charbon. Le président du Conseil, Paul Ramadier, faisait savoir qu'il ne chauffait pas son bureau. Les mêmes chansonniers l'appelaient d'ailleurs Ramadiette. C'est lui qui, au printemps, va renvoyer les ministres communistes qu'il regarde comme des agents de Moscou. L'année 1947, c'est en effet celle des tensions grandissantes entre l'URSS et les États-Unis. Le président américain Truman déclare qu'il faut endiguer l'expansionnisme soviétique en Europe. C'est alors que son secrétaire d'État, le général Marshall, lance un vaste programme pour le redressement économique de l'Europe. Les quatre bénéficiaires les plus importants sont dans l'ordre la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest, laquelle est constituée non sans défiance en 1949. 12 autres pays sont concernés. Ceux qui sont passés au communisme ont été fortement invités par Moscou à renoncer. L'intégration européenne se fera sans eux, car l'intention du plan, au-delà de la distribution d'aide 4 ans durant, est de mettre en place des instruments et des habitudes de libre-échange entre les pays du continent. Le Nouveau Monde propose à l'ancien l'horizon de l'intégration pour éviter le chaos des extrémismes tels qu'on le connut dans les années 1930. Un des prolongements du plan est d'ailleurs la constitution du pacte atlantique. Atlantisme, libre-échange, mais le plan Marshall est si unifiant, si cohérent qu'il implique aussi le changement sous l'aile des États-Unis des méthodes de production et des habitudes de consommation. Productivité et maïs hybride, coca, colonisation, dit le Parti communiste. Le plan Marshall a été un événement, au sens radical du mot, un fait politique et social total.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Gérard Vint, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Responsable des pages historiques d'Alternatives économiques, l'excellent mensuel est dans le numéro de septembre, un article consacré au plan Marshall par vos soins. L'Europe est redevable au général Marshall. En tout cas, au général Marshall, chef d'état-major de Roosevelt, qui souhaitait indiquer la priorité au président américain, se débarrasser d'abord de Hitler et ensuite s'occuper du Japon.
Oui, Marshall donc a été un général en chef. Et puis, à ce moment-là, au moment du fameux plan qui va porter son nom, il est secrétaire d'État. Alors ce plan donc s'appelle officiellement l'ERP, hein, European Recovery Program, programme donc de redressement, de restauration européen. Et il va donc lui, on n'est pas tout à fait à l'anniversaire, c'était le 6 juin, hein, son discours, mais le 16 septembre, les 16 pays européens vont approuver ce plan et
donc
y répondre.
Donc on est à peu près à l'anniversaire, mais on va revenir en arrière, oui. si vous le voulez bien, parce que est-ce que c'était un plan conçu comme ça, tout armé, dans la tête du général? Il y avait eu au mois d'avril une réunion quadripartite à Moscou entre les alliés, les Anglais, les Français, les Américains et les Russes. Et Moscou avait marqué sa volonté de se démarquer. Et le général Marshall aurait songé à son plan, à son retour. Et puis il avait une occasion de s'exprimer. C'était donc un discours pour son
c'était
doctorat honoris causa.
Oui, pour être reçu docteur honoris causa de l'université de Harvard. Donc c'était, je dirais, une occasion un petit peu curieuse, je dirais, pour ce discours.
Et il avait dit au président de l'université, bon, je ferai mon topo de remerciement comme convenu, j'en dirai peut-être un tout petit peu plus.
Notre politique n'est dirigée contre aucun pays ni doctrine, mais contre la faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos. Son but devrait être le rétablissement d'une économie mondiale saine, de façon à permettre le retour à des conditions politiques et sociales dans lesquelles peuvent exister des institutions libres. Tout gouvernement qui consent à nous aider dans la tâche de renaissance trouvera une coopération complète de la part du gouvernement américain. Les gouvernements, partis politiques ou groupes qui cherchent à perpétuer la misère humaine pour en profiter politiquement ou autrement rencontreront l'opposition des États-Unis.
Nous offrons à l'ancien monde nos valeurs universelles, liberté, refus des extrémismes. Alors ça, c'est l'interprétation qu'on a dû avoir à Harvard dans le cadre de l'université. Puis il y a une autre interprétation qui dit c'est le moment où le président Truman s'inquiète de plus en plus de l'expansionnisme soviétique et il veut mettre en place une politique d'endiguement et le plan Marshall en fait partie.
Oui, alors peut-être que c'est pour le début du plan Marshall, il faut peut-être être plus nuancé, il ne faut pas en faire, je dirais, essentiellement une machine de guerre froide. Je pense qu'il y a une certaine sincérité de la part du gouvernement américain et de Marshall en particulier, hein, dans l'idée que si on arrive à développer finalement l'Europe, à la redresser d'abord, puis ensuite à la développer sur le modèle américain, production de masse, consommation de masse, on va pouvoir faire bien des choses, y compris d'ailleurs en Europe de l'Est.
Y compris en Europe de l'Est. Parce qu'il y a des pays de l'Est qui commencent à être sous influence de Moscou très forte, la Yougoslavie qui ensuite marquera de la distance, la Pologne, la Tchécoslovaquie qui n'est pas encore ouvertement communiste. Il y a même à Paris le Parti communiste français qui ne sont pas au départ complètement opposés à l'idée de se participer au plan Marshall.
Non, il y a même au sein du PC hein, des hésitations. D'ailleurs, des dirigeants du PC se feront en quelque sorte, entre guillemets, engueuler plus tard hein, sur leurs hésitations.
Ouais, dès l'été 47, d'ailleurs, voilà, ils vont être engueulés. Ouais,
voilà, dès l'été 47. L'URSS, faut bien se rendre compte que, d'une certaine manière, le plan Marshall fait suite aussi à la guerre et à la loi Prébaï, dont bénéficiait pendant la guerre l'URSS. De manière assez importante. Et donc, il y avait une certaine logique de la part de Marshall à proposer son l'aide américaine, l'aide financière américaine, l'aide matérielle américaine, y compris à l'URSS et aux pays qui avaient été libérés par l'armée rouge. La Pologne et la Tchécoslovaquie se montrent intéressés.
Mais Staline met le holà.
Il met le holà, d'abord parce qu'il se rend compte que ça voudrait dire que les économies d'Europe de l'Est, et y compris celles de l'URSS, éventuellement, dépendraient de technologies américaines. Non seulement de dollars américains, mais de technologies américaines, ce qui engendrerait une dépendance à long terme. Donc il n'en est pas question.
Début 48, coup de Prague en Tchécoslovaquie. Ceux qui ne sont pas communistes et qui participent encore au gouvernement sont invités à prendre la porte. Il y a même le ministre des Affaires étrangères, Masaryk, qui prend la fenêtre. Il est défenestré ou il est suicidé. Ça va d'ailleurs aider ça, le Congrès américain qui a toujours un groupe important en son sein qui est isolationniste, a décidé de débloquer les milliards de dollars que veut investir Marshall.
Oui, entre la déclaration de Marshall en juin 47, l'approbation de 16 pays européens qui sont d'accord avec le projet de Marshall et le déblocage des crédits, il faut quand même un vote du Congrès. On discute beaucoup au Congrès, d'ailleurs on réduit beaucoup aussi la somme, hein, puisqu'on va passer de 22 milliards demandés par les Européens à 13 globalement, dont 11,5 de dons et le reste en prêts. Et au Congrès, on discute. D'abord, on dit qu'on va débloquer pendant un an, puis ensuite, on revotera chaque année. Alors, effectivement, et en même temps, le Congrès exige un contrôle, et ça, c'est très important, un contrôle de l'usage de ces fonds.
On voit là une ligne de fond au Congrès qu'on sent encore aujourd'hui. Le président de l'époque, rien à voir avec la politique de Trump, c'est le président Truman.
À Washington, le président Truman a signé la loi votée par le Congrès et qui assure aux nations participantes d'Europe quelques 6 milliards de dollars, soit 1 800 milliards de francs. Grâce à cette aide, dont l'idée fut lancée voici 10 mois, l'Europe compte se redresser définitivement.
Les premiers tracteurs américains sont livrés à la France. Le cargo Calpress a transporté cette première tranche de 209 tracteurs destinés aux petites exploitations agricoles. 15 000 engins de ce type doivent nous parvenir dans le courant de l'année. Souhaitons, avec le délégué du plan Marshall, qu'ils aident à tracer le sillon de la prospérité française.
Voilà, alors cocorico, les tracteurs, les wagons, mais aussi je vois dans le tableau que vous avez produit dans le numéro d'Alternative économique auquel vous avez collaboré, Gérard Wint, coton, énergie, matières premières semi-finies, tabac.
Oui, ça doit être l'œuvre du lobby des tabacs qui est très puissant aux États-Unis.
Mais alors, on voit à peu près ce qui est fourni, mais comme disait le chansonnier Jean Rigaud, qu'on a entendu en exergue, dans la suite de son numéro sur le plan Marshall, c'est formidable, il le disait en anglais, j'ai pas aussi bien parlé anglais que lui, tout nous est donné.
Tout nous est donné, en fait c'est compliqué.
Hein, parce que accrochez-vous, chers auditeurs.
Les États-Unis livrent à chaque pays. Il y a d'abord un accord bilatéral avec chaque pays. Il livre, mettons à la France, puisqu'on parlait de la France, il livre à la France des produits qui sont des produits alimentaires, des produits semi-finis, des machines, etc.
Du tabac. Bon, bref.
Ça, c'est anecdotique. C'est pour les fumeurs de pipe. Bon, mais donc il livre des produits à l'État français, lequel est gratuitement. Et l'État français va revendre à des entreprises privées ou publiques, ces produits. Et donc ces entreprises achètent ces produits en francs français.
Ouais.
Et l'État va donc récupérer de l'argent,
ouais,
et va pouvoir réinvestir cet argent suivant le plan monnaie, puisque en France il y a un plan qui a été établi dès 46, hein, donc pour investir dans l'énergie, dans les infrastructures,
etc. C'est ça la contre-valeur.
C'est ça ce qu'on appelle la fameuse contre-valeur.
Ben,
c'est assez compliqué.
Bravo. Mais l'alternative économique en général est assez limpide, vous l'avez prouvé. Mais Gérard Wint.
Mais alors pour pouvoir débloquer ces fonds de contre-valeur, il faut quand même l'accord des États-Unis et de l'administration américaine, qui s'appelle l'Administration pour la coopération économique, ECA, en américain, qui est en France, hein, celle qui est l'ECA française.
On entendait parler du délégué du plan Marshall.
Voilà, donc c'est le délégué du plan Marshall qui doit donner son accord pour le déblocage de ces fonds.
Mais vous insistez beaucoup sur l'importance des administrations américaines dédiées, qui sont curieuses. Jamais les Américains n'en ont autant su sur l'économie et le fonctionnement de la France. Il y a aussi une organisation à dimension européenne, l'OECE, qui deviendra plus tard, quand la référence européenne aura été gommée, l'OCDE. Et cette organisation, elle est dédiée à l'intégration. C'est-à-dire que les Américains disent aux membres de l'OECE, bah, débrouillez-vous entre vous pour, je ne sais pas moi, faire des unions douanières, par exemple.
Oui, absolument. C'est déjà présent dans le discours de Marshall, hein, l'idée que ça doit être les Européens qui prennent l'initiative, en quelque sorte, de leur propre union. Et ils souhaitent fortement la création d'un grand marché européen. Et c'est au sein de l'OECE, donc, qui est créé officiellement en avril 1948, qu'est discutée cette possibilité de créer des unions douanières, de créer
ça
un
marche
marché.
Pas.
Ça marche pas. Il y a beaucoup de prévention contre ça. L'Angleterre et la France, qui sont les deux pays clés, sont en désaccord là-dessus. On n'arrive même pas à l'OECE à se mettre d'accord sur la répartition des fonds Marshall, et c'est finalement plutôt les États-Unis qui décident de cette répartition.
Alors les pays concernés, ils sont 16, dont l'Allemagne de l'Ouest, qui se constitue reconnue, malgré la défiance qui l'entoure, en 1949.
Oui, alors dans un premier temps, c'est l'Allemagne occupée, la bizone anglo-américaine, plus la zone française, et à partir donc de mai 49, la République fédérale d'Allemagne, qui va bénéficier de ce plan. Alors on grince un petit peu des dents, hein, ça va être difficile à faire passer, en particulier en France, mais finalement ça va passer, surtout que ça intervient au moment du blocus de Berlin.
Et puis, le Portugal est entré sans trop de difficultés, protection anglaise, et puis souvenir du rôle neutre qu'avait joué le dictateur Salazar. Pour l'Espagne, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'un film qui a marqué le renouveau du cinéma espagnol en 1952, qui s'appelle Monsieur Marshall. C'est un village qui est convaincu d'être relooké pour attirer l'attention des Américains qui vont débarquer dans la péninsule. Et les gens du village imaginent des miracles, qu'un B-29 parachute tracteur perfectionné à l'agriculteur, etc., etc. C'est une chanteuse de flamenco qu'on va entendre ici, Lolita Sevilla, qui a convaincu les villageois. Les Yankees vont arriver, on les attend, vous allez les accueillir avec la joie la plus extrême.
Nuestro avío y con tantos carnes se vaya buen pelo Villa del Río traerán divisa pa' quien todavía mejor corría y medias y camisa pa' las mocitas más presumidas. Ay, 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 americano, vienen a España guapos y sanos, viva el tronío de este gran pueblo con poderío. Olé Virginia y Michigan y viva Persa que no está más. Os recibimos, americanos, con alegría. Olé mi madre, olé mi suegra, yo olé mi tía.
Americanos,
vienen a España guapos y sanos.
Viva el tronío
de este gran pueblo con poderío. Olé Virginia y Michigan y viva Tejerza que no está más. Os recibimos, americanos, con alegría. Olé mi madre, olé mi suegra, yo olé mi tía.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Le plan Marshall avec Gérard Wint d'Alternative économique et l'attente des bienfaits du plan Marshall. Alors, dans le village espagnol en question, Lolita a fait des promesses un peu démesurées, parce que les Américains arrivent bien au jour J, un peloton de motocyclistes en Harley-Davidson, des grosses limousines, et puis tout le monde traverse en trombe le village, les Américains disparaissent à l'horizon dans un nuage de poussière, ils ne se sont pas arrêtés, et ils laissent les habitants avec un monceau de dettes à payer, parce qu'il a fallu reconstituer le village pour leur plaire.
Oui, alors c'est assez original, hein, ce son que vous-même et vos collaborateurs avez trouvé.
Alors c'est Franck Olivard qui nous a trouvé ça.
Oui, c'est assez rigolo, dans la mesure où en plus l'Espagne donc est exclue du plan Marshall, parce que même si aux États-Unis un certain nombre de gens, on n'y verrait pas d'inconvénient. Par contre, il y a un veto, on peut dire, de la Grande-Bretagne et de la France. Hein.
Toujours l'Espagne de Franco.
C'est l'Espagne de Franco, la guerre civile est dans les têtes, la répression est toujours aussi féroce, et Franco ne veut absolument pas mettre de l'eau dans son vin dictatorial.
Alors que les Américains, lui proposent « venez à mi-chemin, soyez un peu moins fasciste ».
Que soyez un peu plus présentable. Voilà. En fait, Franco, il espère que la guerre froide lui permettra d'intégrer le plan Marshall, ce qui ne va pas être le cas.
La guerre froide lui permet aussi de mettre un pied dans l'Alliance Atlantique à mi-chemin. Oui. Un pied dans la porte, parce que le plan Marshall a à voir quand même avec la constitution de l'Alliance Atlantique.
Oui, disons que plus le temps passe, plus la guerre froide s'approfondit, plus le plan Marshall va être intégré finalement à la stratégie américaine de lutte contre le bloc soviétique, bien sûr.
D'où l'opposition, il faut qu'on y vienne, de certains milieux. Et notamment, on va continuer à parcourir l'exemple français, du Parti communiste qui voit dans le plan Marshall la constitution d'un arsenal militaire, la création d'un filet, vous savez, le filet que les gladiateurs jettent sur l'Europe, et un cheval de Troie, puisque le plan Marshall va aussi transformer la consommation. Ici, c'est un extrait d'un film produit par le Parti communiste et signé Raymond Vogel.
Pour nous préparer à recevoir les bombes qu'ils fabriquent, ils veulent nous habituer à la brutalité, au crime, à la mort. Ils veulent corrompre même nos gosses. Leurs journaux pour enfants exaltent le gangstérisme, le racisme. Voilà la civilisation américaine. La civilisation de revolver.
Du Coca-Cola.
Allez, mon bonhomme, placez votre camelot ailleurs.
Alors, il faudrait décrire l'image qui correspond à ce passage sur le Coca-Cola. Un individu habillé en impair, comme Humphrey Bogart, ouvre le dit impair et qu'est-ce qu'il propose ? Des bouteilles, c'est très indécent, de Coca-Cola. Et le bistrot qui dit « on a du bon vin de France », le congédie. Allez, mon bonhomme, va-t'en, avec ta camelote.
Oui, en ce qui concerne les produits, en plus, le Parti communiste peut surfer, en quelque sorte, sur une vague anti-américaine qui existe depuis longtemps. Hein, depuis, souvenons-nous, du bouquin de Duhamel sur Scène de la vie future, en 1929.
Le docteur Duhamel, pas Alain, Georges.
Oui, George. et donc, on a une, quand même une certaine prévention contre ces produits américains. Mais c'est vrai que ces produits vont arriver, effectivement.
Alors, par exemple
hein, alors, par exemple, on a le Coca-Cola, mais on a aussi, par exemple, le nylon, qui a été une matière produite par l'entreprise américaine de chimie Dupont de Nemours. On en a encore le maïs hybride, par exemple.
Ah, maïs hybride, parce que le bon vieux maïs du Béarn, il est un peu souffroteux sur sa tige courte, tandis que le maïs hybride...
Voilà, c'est pas les OGM, mais c'est l'hybridation. Donc, il y a un certain nombre de produits et de progrès technologiques qui sont...
Attendez, vous parlez de progrès technologique. Dans le cas des défenseurs du maïs traditionnel, ils disaient que c'était un progrès dangereux que le maïs hybride. Il y avait une formule que les Américains, qui devaient regarder ça avec des yeux un peu ronds de stupéfaction, utilisaient. Il y a la ligne du PC, disait-il.
Oui, alors, ça c'est le responsable de l'ECA, de l'administration hein, qui est américaine qui administre le plan Marshall, qui a eu cette phrase qui était très très typique. Il dit le plan Marshall finalement s'est opposé à la ligne du Parti communiste soviétique et des partis communistes européens, la ligne d'assemblage, la ligne de la production de masse.
Alors la production de masse, venons-en à ce thème, parce que le plan Marshall va aussi modifier le regard sur la fabrication. On n'imagine pas ce qu'ont pu être les missions techniques qui ont été envoyées aux États-Unis à ce moment-là. Je ne veux pas dire qu'elles prenaient du bon temps, mais enfin, c'était de très, très, très longs déplacements avec
absolument.
Une grande variété de possibilités de
absolument.
Connaissance
c'est,
de l'Amérique.
Ça va débuter en 1949. Il y aura, je dirais, un supplément de programmes et de financements sous le nom de programme d'assistance technique qui va envoyer des milliers d'Européens en mission de productivité de plusieurs mois, 3 mois, 6 mois, dans des entreprises, souvent du même secteur que les leurs. Donc on va avoir beaucoup de cadres, d'ingénieurs, de techniciens, mais aussi de syndicalistes.
Ah, il va y avoir des syndicalistes.
Il y aura aussi des syndicalistes.
Dans les missions,
oui,
plutôt. Dans lesquels aujourd'hui, on ne mettrait que des patrons.
Voilà, des syndicalistes qui seraient, je dirais, plutôt FOCFTC que CGT à l'époque, hein, vu que la CGT était quand même très liée au Parti communiste. Mais, et on va avoir donc des gens qui sont des techniciens, mais on va avoir aussi des représentants la gestion du personnel, qui vont apprendre aussi des méthodes de gestion, de management. Hein, c'est cette grande période à la fois donc d'apprentissage du Fordisme sous toutes ses formes, du management.
Alors le mot management
il est très présent à cette époque-là.
Et puis il y a ce maître mot aussi, de productivité, qui est ancien, parce que je crois qu'il est apparu à Alain Rey, dictionnaire Robert, en 1766, et il a été assez utilisé au 19e oui. siècle, mais il paraît très, très, très nouveau oui. à l'époque. Ici, Michel Drancourt, puis un dessin animé de 1952.
Qu'est-ce que la productivité ? C'est un mot nouveau, mais dont le sens n'est pas très clair. Productivité, c'est un bien joli mot, mais cela oblige l'ouvrier qui travaille déjà dur à travailler encore plus dur.
Mais non, pas du tout.
Alors ?
Produire davantage, produire mieux, tel est aujourd'hui l'impératif numéro un de l'industrie qui a mis à l'ordre du jour le terme de productivité, maître mot de l'économie moderne. C'est la productivité qui abaisse les prix de revient et permet d'augmenter les salaires. C'est la productivité qui, en 5 ans, a valu à l'industrie houillère d'obtenir des résultats remarquables.
Quand la productivité est grande, l'homme produit davantage, plus vite, et avec un effort moindre.
Quand la productivité est grande, il suffit d'un tout petit coup de pouce et on va très loin.
Oui, donc cette productivité fait l'objet d'ailleurs d'un que sais-je de Jean Fourastier
ouais.
En 1949, autant je me souvienne. Donc on est en plein dedans. Hein, et effectivement, c'est ce modèle de production de masse efficace, hein, où ce qu'on produit dans le même temps de travail augmente, c'est ça, je dirais, la définition de la productivité du travail, qui est vraiment, qui a le vent en poupe. D'ailleurs, dans les entreprises, il y a des primes de productivité, etc. Hein, et là, le modèle américain est extrêmement prégnant.
Marshall est déjà à la retraite quand, en fait, les premiers matériels arrivent dans les pays européens. Il va mourir en 1957, mais il aura eu, en 1953, le prix Nobel de la paix. La même année que Churchill a obtenu le prix Nobel de littérature. Alors, dernière question, c'est celle que vous posez dans Alternative économique, Gérard Wint. S'il n'y avait pas eu le plan Marshall.
Alors là, c'est de la conjoncture, effectivement. Qu'est-ce qui serait passé? Il est certain que le plan Marshall a répondu, en fait, à une nécessité en Europe. Non seulement il y avait d'énormes destructions, mais on n'avait plus d'argent, on n'avait plus de dollars pour échanger internationalement. On n'avait pas grand-chose à vendre à l'étranger pour avoir des rentrées de devises et donc pour pouvoir acheter les biens ou les matières premières dont on avait besoin. Donc le plan Marshall a eu en particulier ce rôle, hein, de fournir des dollars. Ceci dit, l'Europe aurait pu peut-être, si elle était plus unie, elle aurait pu peut-être mieux s'organiser elle-même et se passer peut-être pas totalement, mais en partie des crédits américains. Il y a eu l'Union européenne des paiements qui a permis aux pays européens d'échanger entre eux sans avoir des dollars à débourser. Bon, disons qu'il y a un spécialiste anglais qui s'appelle Milward, qui estime que, par exemple, pour la France, l'absence de plan Marshall aurait retardé le redressement de 2 ans.
Hein. Oui, mais l'effet politique est plus important peut-être encore. Oui. Que l'effet économique.
Oui, il y a un effet politique certain. Le plan Marshall a joué un grand rôle dans l'expansion de cette idée qu'il fallait que les pays d'Europe coopèrent entre eux. On savait pas encore trop comment. Ça va déboucher en premier lieu sur la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, hein, le contrôle de la production de charbon et d'acier. Et donc, ça va mettre sur les rails toutes les discussions sur la coopération économique en Europe.
On a évité la désintégration de l'Europe, diront les Américains, et fait avancer l'intégration de l'Europe. Je parle des Américains de cette époque. Merci à vous, Gérard Wint, le numéro de septembre d'Alternative économique avec votre article sur le plan Marshall. L'émission a été préparée par Franck Olivard et aussi par Lina Boueri, à la technique Nicolas Slimani, et la réalisation, c'était Valérie Aestaray.